Génération Passepartout, épisode 12. Aujourd'hui, on jase de la fameuse liste d'essentiels pour accueillir un nouveau-né. C'est parti! Bienvenue sur Génération Passepartout, un podcast pour les parents, en devenir ou en pleine dent. Je suis Audrey Sénéchal, fondatrice de Petit Pas Portail Parents, au service de l'épanouissement des petits comme des grands. Repenser la naissance autrement, célébrer la petite enfance comme il se doit, mieux comprendre pour aligner vos choix, voilà ce qui vous attend. Pour une parentalité engagée et décomplexée, sans verser dans la culpabilité. Génération Passepartout, ta référence pour tout ce qui touche la périnatalité, la parentalité et la petite enfance. Bonne écoute! L'information contenue dans ce podcast ne remplace en aucun cas les conseils professionnels d'un médecin, d'une sage-femme ou tout autre professionnel de la santé. Il ne vise pas à donner de conseils précis ni individualisés et ne devrait pas être interprété de la sorte. Vous devriez toujours consulter un professionnel de la santé qualifié pour vos questions médicales personnelles avant de faire des choix éclairés. Allô, allô! C'est avec un peu de retard, avec un petit chat dans la gorge et une tasse d'eau chaude avec du miel à la main que j'entame l'enregistrement de cet épisode. Puis là, peut-être que tu te dis, bon, au nombre de listes d'essentiels qui existent un peu partout sur le web, c'est peut-être pas le sujet du siècle à aborder en épisode de podcast. Mais je te rassure, l'idée dans cet épisode-ci, c'est pas de te faire une longue énumération d'éléments à cocher, à savoir si tu es prête ou non pour accueillir bébé, mais plutôt de susciter la réflexion, à savoir ce qui est essentiel pour toi ou non. Ce qui fait que ce qui semble essentiel pour moi ou pour ta meilleure amie, ça n'a pas vraiment d'importance. Tout dépend de tes besoins à toi et surtout des besoins de ton bébé. Puis l'affaire là-dedans, c'est que ça, on ne le sait pas vraiment avant que bébé soit arrivé. On peut quand même se poser les questions suivantes. Donc, qu'est-ce qui est vraiment essentiel? Qu'est-ce qui peut être essentiel, mais pas vraiment pour le moment? Et finalement, qu'est-ce qui semble essentiel, mais qui ne l'est pas tant que ça, finalement? Puis là, ben, comme la naissance de mon petit dernier à moi, qui est plus si bébé que ça, donc ça remonte à presque 7 ans, ben, j'ai eu peur de vous sortir la fameuse phrase « dans mon temps, moi ». Puis, en fait, je me faisais la réflexion à quel point c'est fascinant comment ça change en si peu de temps. Puis là, je sais, on croirait entendre une baby boomer, mais honnêtement, c'est à croire que les besoins primaires de nos bébés ont changé, ont upgradé depuis à peine quelques années. Tout ça pour dire que j'ai pris le temps quand même de recueillir les témoignages de plusieurs mamans à propos de leur must et pas si must que ça. Puis les réponses sont super variées. Parce qu'au final, finalement, ce qu'on constate, c'est que ça dépend tellement de chaque bébé. Puis parfois, même les essentiels pour bébé 1 seront pas du tout les mêmes pour bébé 2. Puis à bien y penser, on n'a pas besoin de grand-chose finalement, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire. Donc quelques petits pyjamas, newborn ou 0-3 mois, des couches, des lingettes humides ou des débarbouillettes, un coussin d'allaitement, même si tu ne prévois pas allaiter, puis tout type de contenant pour faire dormir bébé, donc que ce soit un Moïse, un berceau, un parc, une couchette, peu importe, c'est à peu près tout ce que tu as besoin. Puis après, ben, tu vas pouvoir t'ajuster en fonction de tes besoins ou enfin en fonction des besoins de ton bébé. Parce qu'au final, ces besoins de base restent quand même d'être aimé, d'être en sécurité et d'être nourri de lait pour les 6 premiers mois. Mais j'ai quand même eu envie de faire ressortir quelques pistes de réflexion en lien avec les essentiels pour la femme enceinte, pour la nouvelle maman ou les nouveaux parents et les essentiels pour bébé. Donc, si on commence par la femme enceinte, d'abord, j'ai envie d'insister sur le confort. Le confort qui passe entre autres par les vêtements de taille adaptée. Donc, avec le diamètre de la cage thoracique qui augmente, la bédaine qui pousse à vue d'œil et le bassin qui s'élargit, il y a des chances que tu aies besoin d'adapter un peu ta garde-robe. Ne serait-ce que pour exercer le moins de compression, le moins de contraintes possible pour la respiration, par exemple. Donc, un pantalon ou un soutien-gorge trop serré pourrait nuire à la respiration, qui est déjà restreinte par bébé, qui occupe de plus en plus d'espace. Donc, s'offrir le luxe d'une respiration naturelle plus libre, c'est quand même une bonne idée. Je poursuis maintenant avec un autre essentiel qui a été souvent mentionné, c'est le coussin multifonction. Donc, un coussin, plusieurs options. Puis, j'insiste ici pour le multifonction parce que des coussins, il en existe des tonnes. Mais, selon moi, un coussin avec une fonction unique, c'est pas tant un investissement. Donc, aussi bien pouvoir l'utiliser, que ce soit pendant la grossesse pour le positionnement dans le lit la nuit, par la suite avec bébé, ça peut être pour l'allaitement ou pour les boires de bébé, et éventuellement l'utiliser comme support pour bébé pendant qu'il est assis au sol, par exemple, ou lors des périodes d'éveil sur le ventre. Donc, un coussin qui peut avoir plusieurs fonctions, plusieurs utilisations et surtout une durée de vie plus grande. Ensuite, un autre des essentiels qui est peut-être pas commun ici, donc pendant la grossesse, je te parle de la balle de tennis ou de la balle de yoga qui est un peu plus ferme, qui pourrait devenir ton allié numéro un dans la gestion de tes inconforts ou de tes tensions musculaires. Donc, avec tous les changements physiques, les changements posturaux qu'impose la grossesse, c'est pas rare que les femmes enceintes vont expérimenter des tensions, des inconforts entre les omoplates, par exemple, au niveau des trapèzes ou le long de la colonne. Puis, à ce moment-là, la balle peut devenir un outil d'automassage, un outil d'autogestion de la douleur. Ça peut être si tu es déjà suivi par une professionnelle, par une physio par exemple, bien, entre les suivis, tu pourrais utiliser la balle à la maison en guise d'auto-traitement. Je te parle d'un autre, à savoir si c'est essentiel ou non, on verra, mais ici je te parle soit de l'huile d'amande douce, beurre de karité, vitamine E, puis ici, ça pourrait même être n'importe quelle huile végétale. En fait, je t'en glisse un mot ici parce que peu importe ce qu'on peut insinuer sur les étiquettes des nombreuses crèmes ou des huiles anti-vergeture, il n'y a pas aucune crème qui va empêcher réellement l'apparition des vergetures. Puis ça, c'est vrai, peu importe le prix que tu paies pour cette crème-là. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les vergetures, en fait, c'est des déchirures profondes de la peau. Ça se passe au niveau du derme, qui se trouve être la couche moyenne de la peau. Donc, entre l'épiderme, qui est comme la couche la plus superficielle, et l'hypoderme. Donc, les fibres de collagène, les fibres élastiques vont se déchirer spontanément, ce qui va laisser apparaître, finalement, de façon visible, les vergetures, donc des stries de couleurs variées. Puis, une fois cicatrisées, bien, c'est là où les vergetures vont devenir un petit peu plus blanches puis moins visibles. Donc, on dit qu'au cours de la première grossesse, c'est à peu près 50 à 70 % des femmes qui vont constater l'apparition de vergetures, souvent en fin de grossesse. Donc, les changements hormonaux qui caractérisent la grossesse, entre autres, peuvent affaiblir la production naturelle du collagène diminuer la souplesse des fibres élastiques. Donc, c'est là où le risque de voir apparaître des vergetures, le risque est plus élevé, en fait, pendant cette période de grands changements hormonaux. C'est le cas, entre autres, à l'adolescence aussi. Donc, pour en revenir à l'application de la crème, la crème, elle, agit plutôt sur la couche superficielle de la peau, donc sur l'épiderme, ce qui aurait au final peu d'impact sur l'apparition des vergetures. Par contre, le fait d'hydrater la peau et de la masser, de la mobiliser, pourrait favoriser l'élasticité. Mais tu comprendras ici que c'est bien plus l'aspect mécanique, donc le fait de venir masser, de venir bouger les tissus, que l'action de la crème en soi. Ce qui fait que n'importe quelle huile, même à faible coût, peut faire l'affaire. Pour la nouvelle maman, maintenant, je reviens encore avec la notion de confort. Donc, que ce soit l'achat d'un soutien-gorge d'allaitement de la bonne taille, des vêtements adéquats pour l'allaitement, des pantalons confortables, pas trop serrés à la taille, bien là, c'est à toi de voir la quantité nécessaire. Mais il n'y a rien qui presse à retourner dans tes vêtements d'avant. Côté sous-vêtements, après avoir utilisé soit des serviettes ultra-absorbantes ou encore des couches pour adultes à ta sortie de l'hôpital, peut-être que tu vas apprécier le confort des culottes menstruelles pour les semaines suivant l'accouchement. Donc, du moins le temps où les lochies, donc les saignements qui persistent suite à l'accouchement, s'estompent. Puis, ben, au final, c'est aussi un investissement à long terme, donc à réutiliser lors du retour de tes menstruations éventuellement. Pour ce qui est de l'allaitement, donc si tu prévois allaiter, en plus d'un soutien-gorge d'allaitement où ça peut juste être une simple bralette souple que tu peux relever, tu peux prévoir aussi quelques compresses d'allaitement pour les débordements. Et là, plusieurs mamans m'ont recommandé aussi le AKA. Puis là, je ne sais pas si je prononce ça comme il faut, mais je vais vous l'appeler le H-A-A-K-A-A. Donc ça, ça entre dans la catégorie « j'aurais donc bien aimé ça que ça existe quand j'allaitais ». Puis c'est là que je vous dis que ça évolue vite en Titi, le marché de la périnatalité. Mais pour vrai, même si ça a l'air du nouveau gadget à la mode, plusieurs mamans apprécient ce tire-lait pour recueillir finalement le lait qui va s'écouler de l'autre sein pendant le boire de bébé. Donc, c'est un tire-lait, tout ce qu'il y a de plus simple, pas de pompe, pas de fil, pas de batterie, pas rien d'autre finalement. Donc, un simple dispositif en silicone de grade alimentaire que tu viens placer sur le sein de l'autre côté pendant que bébé boit de l'autre sein. Puis, ben, le tire-lait fait sa job tout seul finalement par phénomène d'aspiration ou de succion. Donc, il n'y a pas de pompe manuelle non plus. Donc, au lieu de s'en aller dans le pad d'allaitement, ben, le lait est récolté dans le AKA. Alors, pourquoi pas? Puis, ça se peut aussi que pendant la mise en place de l'allaitement, tu aies quelques blessures, des gerçures au mamelon, entre autres, et que tu apprécies avoir de la crème à portée de main. On dit souvent aussi que d'appliquer une goutte de lait maternel avant et après l'allaitement sur le mamelon peut favoriser la guérison des mamelons endommagés. Dans les cas où ce ne serait pas suffisant, il y a la crème à base de lanoline qui peut aider à hydrater et favoriser la guérison. Puis c'est une crème qui est sans danger pour bébé, donc on n'a pas besoin de retirer ou nettoyer avant les boire de bébé. Et il y a la fameuse pommade du Dr. Newman qui serait un autre secret bien gardé. Donc, la pommade du Dr. Newman, c'est une pommade tout usage qui est composée de différents ingrédients, donc entre autres d'antifongiques, d'antibiotiques et d'anti-inflammatoires. Et pour les mamans qui l'ont utilisée, ça ferait des petits miracles. Donc, je vous invite à en discuter soit avec votre médecin ou votre pharmacien. Puis, ben, ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que une fois l'allaitement débuté, une fois que les mamelons sont habitués à la succion, l'allaitement ne devrait pas être douloureux. Donc, il faut se rappeler qu'une mauvaise mise au sein, c'est aussi la première cause ben, de blessures au mamelon, de gerçures, entre autres. Donc, un autre essentiel, ce serait d'avoir recours au soutien d'une consultante en lactation pour maximiser tes chances de succès par rapport à l'allaitement. Puis là, je reviens encore à la notion de confort parce que c'est vraiment essentiel à mon avis. Mais comme le sommeil se fait souvent rare et que les boires, eux, se font assez fréquents, bien, assure-toi d'avoir un lit confortable et un espace adapté pour les boires de bébé, pour assurer ton confort à toi autant que celui de ton bébé. Donc ça, c'était pour la portion plus boire de bébé allaitement. Pour conclure, là, pour la nouvelle maman et les nouveaux parents, en fait, on peut penser au sac à couche aussi. Puis là, je dis sac à couche, mais ça peut être n'importe quel sac multifonction. Idéalement, il faut que ça convienne aux deux parents aussi, hein? Donc, ça peut être un sac qu'on se partage entre les deux parents. Donc, c'est pas obligé d'être genré non plus. Puis, idéalement, ben, un sac assez grand pour contenir ce que tu pourrais avoir besoin. Donc, des couches, des lingettes, quelques vêtements de rechange. Puis, ben, juste pour vous donner une idée, mon premier sac à couche, en fait, à ma fille qui a maintenant 10 ans, ben, il sert encore aujourd'hui, mais pour d'autres fonctions. Donc, c'est devenu le sac pour la natation ou encore le sac pour le camping. Donc, c'est le genre d'achat d'item qui est durable, qui a une longue durée de vie et qui peut servir pour toutes sortes d'utilisations aussi. Donc, à vous de voir ce qui convient à votre style de vie familial. Puis, finalement, pour les nouveaux parents, ben, on ne peut pas passer à côté des petits plats préparés ou des repas congelés préportionnés pour pouvoir s'alimenter sans avoir à tout planifier une fois qu'on est de retour à la maison avec bébé. Donc, ça aussi, ça fait partie des must, des essentiels pour les nouveaux parents. Pour bébé maintenant, si on s'en tient à l'essentiel, on peut penser aux items nécessaires à sa sécurité, au sommeil, à l'hygiène, à la proximité et au boire. Donc, pour la sécurité d'abord, ben, pour revenir à la maison en voiture, tu vas avoir besoin d'un siège de bébé ou la fameuse coquille. Donc, si tu choisis d'acheter un siège usagé, c'est toujours conseillé d'acheter d'un proche, de quelqu'un que tu connais ou du moins de connaître l'historique, à savoir si la voiture a été accidentée, par exemple. Et on recommande d'éviter d'acheter une coquille sur les petites annonces. Bien important aussi de vérifier la date d'expiration inscrite sur la coquille. Là, ici, un des essentiels qui est souvent rapporté, c'est la fameuse housse pour recouvrir la coquille. Donc, par exemple, pour les bébés d'automne ou les bébés d'hiver, pour les garder au chaud, ça fait souvent partie des essentiels des nouvelles mamans. Ici, je veux juste amener à votre attention que si vous optez pour une housse, il faut savoir que même si elles sont conçues pour s'ajuster au siège de bébé, les recommandations des fabricants, c'est de retirer les housses avant de prendre la route. Et les recommandations du CHU Sainte-Justine aussi, en fait, ce qu'ils nous disent, c'est d'habiller l'enfant d'un habit assez mince et chaud et de remplacer tout simplement la housse par une couverture en prenant le soin, évidemment, de dégager le visage de bébé. Fait que je sais que c'est pas l'habitude de toutes, mais je tenais quand même à préciser les recommandations par rapport à la coquille et à ces fameuses housses qui sont utilisées beaucoup, beaucoup, beaucoup et probablement pas toujours retirées avant de prendre la route. Question ergonomie, j'ai aussi tendance à privilégier le fait de laisser la coquille en place dans la voiture et de sortir seulement bébé dans les bras ou dans le porte-bébé, par exemple, si vous êtes en sortie. Ce qui fait qu'encore une fois, c'est plus pratique à ce moment-là d'avoir un petit habit d'hiver plutôt qu'une housse où bébé ne serait pas beaucoup habillé sous la housse. Pour la proximité, en fait, ici, je parle de la proximité avec son parent ou encore pour les déplacements. Ça pourrait être fort utile d'avoir recours à une écharpe de portage, donc particulièrement dans les premières semaines de vie de bébé. C'est généralement plus facile d'utiliser une écharpe de portage qu'un porte-bébé préformé à ce moment-là. Et surtout parce que pour le porte-bébé, il est fortement recommandé d'aller l'essayer en magasin. Donc, d'en faire l'essai, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de one size fits all où il y a un meilleur porte-bébé que tous les parents devraient avoir. Et même à savoir si, si maman l'utilise, si papa l'utilise aussi, idéalement, on veut un modèle qui convient aux deux et qui est confortable pour les deux aussi. Donc, pour le porte-bébé, j'ai tendance à conseiller de retarder peut-être l'achat, donc pour pouvoir aller en faire l'essai avec bébé, mais l'écharpe de portage, comme c'est assez universel et en fait, ça s'adapte à tous et à toutes, ça peut être très pratique dans les premières semaines de vie de bébé. Pour les déplacements aussi, on peut penser à la fameuse poussette. Puis, encore une fois, bien, la poussette, ça va être très variable au niveau des besoins. Donc, ça dépend l'utilisation que vous allez en faire, ce qui fait que la poussette de choix de ta voisine n'est peut-être pas la meilleure poussette pour toi. Donc, ça dépend, entre autres, si tu es sportive, si tu as envie éventuellement de reprendre la course et d'aller courir avec bébé dans la poussette, bien, peut-être que tes besoins ne seront pas les mêmes qu'une maman qui ne fait pas de course à pied, fait pas de ski de fond l'hiver et tout ça. Donc, vraiment aller magasiner les poussettes en fonction de vos propres besoins. Au niveau du sommeil maintenant, bien, assurément, bébé va devoir dormir quelque part. Donc, que ce soit en cododo, dans le Moïse ou le berceau, la couchette, peu importe, bébé a besoin d'un lieu sécuritaire, mais qui va convenir à votre style de vie et à vos convictions aussi. D'ailleurs, pour plusieurs mamans, la couchette entre dans la catégorie « pas si essentielle que ça », ou essentiel, mais ça presse pas tant que ça. En pensant au lieu pour faire dormir bébé aussi, bien, ça vient souvent avec le kit, l'habillage de lit complet et tout. Donc, c'est souvent très, très cute, mais pas nécessaire non plus. D'ailleurs, Santé Canada recommande de faire dormir bébé sur une surface ferme, une surface plate, avec un drap contour bien ajusté. Puis, pas aucun article de literie mou ou mal ajusté. Donc, on peut penser aux contours de lit, aux bordures de protection, coussins, toutous, jouets, oreillers. Tout ça, on veut rien de ça dans le lit de bébé ou dans l'espace où bébé va dormir. On recommande aussi le partage de chambre dans les 6 premiers mois de vie de bébé, pour réduire le risque du syndrome de mort subite du nourrisson. Donc, le partage de chambre ici, bébé a son propre lit, son propre endroit pour dormir, mais dans la chambre des parents, ce qui facilite aussi l'allaitement puis les changements de couche au beau milieu de la nuit. Puis ici, je voulais glisser un mot aussi sur les coussins de type Snuggle Me, entre autres, qui sont un peu comme des cocons, des coussins portatifs avec des côtés un peu rembourrés. Et c'est des coussins qui ont encore énormément la cote. Par contre, ben, ça fait partie d'ailleurs des essentiels pour plusieurs. Mais ici, je tiens à préciser que ces coussins-là ne devraient jamais être utilisés pour laisser dormir bébé. Et là, laisser dormir bébé, que ce soit le coussin déposé dans un lit de bébé, dans un berceau, un Moïse ou sur un lit pour adultes. Ces accessoires-là, ces gros coussins-là, augmentent le risque de suffocation du bébé. Donc, finalement, ce que tu as réellement besoin, c'est 2-3 draps contours ou des piquets, quelques couvertures en mousseline et un espace ou un contenant, finalement, pour faire dormir bébé, mais qui consiste en une surface ferme et non un coussin rembourré. Pour l'hygiène, maintenant, commençons par l'essentiel pour les nombreux changements de couche. Encore là, la question se pose, hein? Est-ce que la table allongée est vraiment essentielle? Si vous avez déjà une commode ou un bureau qui est à une hauteur raisonnable pour un changement de couche, un simple matelas allongé déposé sur une commode peut faire l'affaire. L'autre affaire, c'est si la chambre de bébé se trouve au deuxième étage, ça se peut très bien qu'au nombre de changements de couche que tu fais dans une journée, que tu ne montes pas en haut à chaque fois. Donc, assure-toi aussi d'avoir l'essentiel au rez-de-chaussée. Puis là, ça peut être aussi simple qu'un piquet que tu installes au sol ou sur la table et d'avoir tes quelques essentiels à portée de main. Donc, des couches, que ce soit des couches jetables ou lavables, des lingettes ou des débarbouillettes pour nettoyer les fesses de bébé, peut-être une crème ou un baume protecteur pour les fesses de bébé, puis un sac imperméable pour les débarbouillettes ou encore les couches lavables au besoin. C'est tout. Pour le bain maintenant, à toi de voir encore une fois en fonction de tes besoins, de l'ergonomie de ton espace aussi, donc de la salle de bain par exemple. Il y a plusieurs articles qui existent comme des petites baignoires pour bébé ou encore des éponges ou des petits sièges inclinés qu'on peut installer dans le fond du bain. Donc ici, il reste à voir finalement ce qui favorise ton ergonomie, ta posture à toi comme parent. Le lavabo de la cuisine fait souvent l'affaire pour les premières semaines de bébé. Donc, pas besoin de payer un prix exorbitant pour des accessoires qui durent finalement très peu longtemps. Sinon, savon, shampoing doux, débarbouillettes en quantité illimitée parce qu'elles vont servir à peu près tout, hein, du régurgie au changement de couche en passant par le bain. Puis finalement, les capes de bain pour bébé, c'est bien cute, mais je suis pas mal certaine que tu as déjà des serviettes qui font l'affaire dans ta penderie. Puis pour la santé en général, on peut penser à une petite trousse de base, donc un thermomètre rectal, de la gelée lubrifiante pour l'utilisation du thermomètre et des antipyrétiques ou de l'acétaminophène, entre autres, pour nourrissons. Pour les boires de bébé maintenant, donc si tu allaites, j'en ai déjà parlé plus tôt dans les essentiels de la nouvelle maman. Par contre, si tu optes pour l'alimentation au biberon, tu vas avoir besoin d'un certain nombre de biberons. Puis ce nombre-là, ça dépend de la fréquence à laquelle tu souhaites les laver. Ça peut aussi être pratique d'en avoir quelques-uns pour te permettre de préparer d'avance quelques biberons en prévision de la nuit, par exemple. Puis, bien entendu, tu vas avoir besoin de préparation commerciale pour nourrissons si toutefois tu ne fais pas de tir allaitement et d'une brosse à biberon pour bien les nettoyer. Puis pour les stériliser, un simple chaudron avec de l'eau bouillante fait l'affaire. Pour le besoin de se vêtir maintenant, donc pour garder bébé au chaud, on opte encore une fois pour le confort, mais surtout l'aspect utile de la chose, plutôt que l'aspect esthétique. Puis là, je sais, c'est tellement cute des vêtements newborn, mais ça dure tellement pas longtemps. Puis côté pratique, les pyjamas à zipper sont beaucoup plus faciles que les pyjamas avec des boutons pression, particulièrement pendant les changements de couche au beau milieu de la nuit. Donc, avoir dans votre inventaire de pyjama. Puis ça, c'est le genre d'affaire aussi où parfois on se fait fournir en vêtements ou en jouets. Puis ça part d'une super belle intention, puis c'est super louable d'avoir recours aux secondes mains, entre autres. Mais si pour toi, c'est un facteur anxiogène d'être embourbé, enseveli de toutes sortes de boîtes ou d'accessoires que tu n'aurais pas fait le choix d'acheter ou encore que tu dis « j'en veux pas, j'en ai pas besoin », mais que tu as de la difficulté à refuser, je pense encore une fois qu'il faut respecter ses propres limites, donc soit nommer les éléments dont on a besoin. Si on a besoin de rien ou si on n'en veut pas, ça se dit, ça aussi. Et sinon, ben, ça peut être de redonner au suivant également, si c'est des choses qui vont finir dans le fond d'un garde-robe par ne jamais être utilisées. Pour les périodes d'éveil de bébé, donc ça, c'est le répertoire des jouets et des accessoires, encore une fois, qui consiste en de nombreuses allées dans les magasins pour bébés. Et on est quand même choyé en matière de boutiques pour bébés aussi au Québec. Et pour vrai, il y a des produits magnifiques. Mais encore une fois, je pense qu'il ne faut pas oublier que pour la plupart, ce ne sont pas réellement des essentiels. Hein. Donc ici, pour les périodes d'éveil, si j'avais peut-être une chose, une chose ou deux, je vais dire, là, mais ce serait d'abord le tapis d'éveil ou le tapis de jeu. Puis encore là, ça n'a pas besoin d'être rien de compliqué, tu sais, même pas besoin d'avoir une arche avec toutes sortes de jouets qui pendent au-dessus de la tête. Pour ma part, le tapis qui fait jaser beaucoup, que j'ai dans mon bureau en clinique, c'est quand même un très grand tapis, là. Je suis pas très bonne dans les mesures, les dimensions, je pourrais pas vous dire, mais il est quand même de très grand format, en genre de caoutchouc assez épais, qui peut se rouler pour être rangé au besoin, mais qui se nettoie à merveille avec un chiffon humide. Les régurgies, c'est disparu, on n'en parle plus. C'est même assez moelleux, assez mou pour que les parents puissent s'installer au sol et être confortables aussi, mais assez ferme en même temps pour permettre éventuellement de faciliter le développement moteur de bébé, donc s'assurer qu'il soit capable de rouler du ventre au dos et du dos au ventre, éventuellement avec les petits pieds nus aussi, d'être capable de s'agripper pour ramper. Vraiment, ça se lave bien. Voilà, je pense que si j'avais un accessoire pour bébé, pour son développement moteur, pour moi, ce serait le tapis de jeu, le tapis d'éveil. Pas d'accessoires, pas rien de particulier. Ben, je vais y revenir avec les petits jouets au départ, là, qui se lavent bien. Je pense que c'est un must pour plusieurs mamans aussi. Au niveau des jouets maintenant, ben, pour les tout petits bébés, là, il faut comprendre qu'avant 3 mois, il n'y aura pas beaucoup d'intérêt envers les jouets. Hein. Ça va être surtout votre voix, votre visage, vos expressions faciales. Donc, bébé d'abord voit assez flou et ensuite va voir davantage les contrastes avant de voir les couleurs vives. Donc, ici, dans les premiers accessoires, ben, souvent, ça peut être des jouets avec des grands contrastes. Donc, soit il y a des hochets avec les extrémités là, qui ont des motifs noirs et blancs, donc des motifs à pois ou des rayures. Il y a même des images contrastées en noir et blanc aussi. Et des petits livres cartonnés avec ce type d'image-là contrastée. Et les miroirs, généralement, entre autres pour pratiquer la position ventrale en venant installer un miroir devant bébé. Ça aussi, ça fait partie des jouets qui sont utiles, je dirais, pour les premiers temps avec bébé. Encore une fois, on n'a pas besoin d'avoir des quantités incroyables, des coffres de jouets qui débordent. Finalement, je ne pouvais pas passer sous silence l'incroyable capacité du marché de la périnatalité à rendre indispensable quelque chose de parfaitement inutile. Mon côté entrepreneur est particulièrement fasciné par la mise en marché des produits puis des accessoires pour bébés. Puis pour vrai, je le dis sans aucun jugement parce que, d'un point de vue marketing, c'est franchement réussi. Puis je te cacherai pas que je rêve secrètement du jour où on va ajouter sur les listes d'essentiels tout ce qui touche non pas au domaine matériel, mais au domaine du savoir, de la prévention puis de l'accompagnement. Puis, Je sais que c'est loin d'être aussi cute qu'un petit kit newborn ou un sac à couche multifonction en cuir vegan, mais savoir, c'est pouvoir. Puis acquérir des connaissances, ben c'est aussi laisser de l'espace pour son intuition. Puis par le fait même, laisser de l'espace pour l'expression de son sentiment de compétence parentale. Si c'est pas un investissement, ça. Alors, j'ajoute sur notre fameuse liste d'essentiels une préparation à la naissance optimale, une préparation au quatrième trimestre digne de ce nom, un entraînement pré- et postnatal adapté, différentes formations axées sur la prévention, puis un accompagnement adéquat des nouveaux parents par les professionnels. Puis là, autant que Marketplace peut être le paradis du seconde main quand vient le temps de s'équiper pour l'arrivée de bébé, autant les groupes Facebook et les forums de ce monde ne sont peut-être pas les espaces de choix pour recevoir de l'information fiable et à jour. Alors, c'est à bien y penser. Dans le segment Passe vite, aujourd'hui, je te parle des techniciennes en sécurité des enfants passagers, ou les TSEP, certifiées par l'Association pour la sécurité des enfants passagers du Canada. Donc, les techniciennes sont des ressources de choix pour vérifier vos bancs d'auto, mais surtout vérifier l'installation des bancs dans votre voiture. Donc, je te laisse dans les notes de l'épisode le lien vers une carte interactive pour te permettre de trouver une technicienne certifiée près de chez toi. La plupart fonctionnent aussi par contribution volontaire. Alors, pour la sécurité de nos enfants, ça en vaut la peine. Je t'ai dit plus tôt que j'étais particulièrement fascinée par la capacité du marché de la périnatalité à rendre indispensable quelque chose de parfaitement inutile. Alors ici, dans le segment coup de cœur, je vais en profiter pour mettre de l'avant notre portail parental Petit Pas. Avec ses bientôt 8 formations disponibles en ligne à consulter à votre rythme, avec un accès à vie. Parle-moi de ça, un investissement comme ça. Notre nouvelle formation sur l'alimentation bienveillante de la nouvelle maman sera d'ailleurs en pré-vente dès ce jeudi 8 décembre. Je dépose donc dans les notes de l'épisode le lien vers notre portail de formation. Prends le temps d'aller y jeter un coup d'œil et surtout, n'hésite pas à en parler autour de toi. Parce que tu sais probablement comme moi que le bouche à oreille, c'est encore pas mal convaincant en 2022. Alors si toi aussi tu considères le savoir et l'accès aux connaissances comme un must pour les futurs et les nouveaux parents, ben il ne faut pas garder ça pour toi. Puis, mettons que tu as déjà tout ce qu'il te faut et que les gens de ton entourage cherchent à tout prix une idée pour te combler ou te gâter, nos certificats cadeaux sont parfaits pour ça. Vraiment pas encombrant à utiliser selon tes besoins quand tu en auras vraiment besoin. Un must, je te dis. Dans le segment mot de passe aujourd'hui, je te partage ce que les mamans m'ont répondu à la question « Qu'est-ce que tu croyais essentiel et qui ne l'était pas tant que ça finalement? » Donc, ce qui est ressorti ici, c'est tous les contenants pour bébé. Donc, que ce soit la sauteuse, la balançoire, les sièges, tout ce qui ne contribue pas à favoriser le développement moteur de bébé, finalement, se retrouver dans ces éléments-là assez encombrant et pas si essentiel que ça. Sinon, j'ai eu la notion de trop. Donc, des jouets de dentition, oui, en trop grande quantité, non. Des jouets, oui, en trop grande quantité, non plus. Un autre élément pas si essentiel que ça, la fameuse table allongée, il y a le Snuggle Me aussi, donc qui est le type de coussin cocon, finalement, qui est revenu. Le chauffe-biberon, qui pouvait facilement être remplacé par un chaudron d'eau qui bouille. Et, encore une fois, dans le trop, là, le trop de petits kits nouveau-nés, alors que les bébés grandissent à vue d'œil. Puis, à la question... Ce qui peut être essentiel, mais qui ne presse pas tant que ça, on retrouve la fameuse couchette. Hein? Il y a comme cette notion-là où la chambre de bébé doit être parfaitement complétée avant son arrivée, alors que pour bien des familles, la couchette est pas utile avant bien des semaines ou bien des mois même. On a aussi la chaise haute, donc qui va finir par être un essentiel, mais encore une fois, les chances sont que l'introduction des aliments tourne autour de 6 mois à peu près. Donc avant ça, pas de presse à magasiner la chaise haute. Puis le tire-lait, encore une fois, ça va dépendre de comment l'allaitement s'installe, ça va dépendre de vos besoins également, donc ça peut être à réévaluer une fois que bébé est arrivé. Puis finalement, je tiens quand même à rappeler que les besoins peuvent être très, très, très variés pour chacun de nos bébés. T'as aimé l'épisode d'aujourd'hui? Je le souhaite si tu es encore à l'écoute jusqu'ici. Donc, n'hésite pas à t'abonner et surtout à laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Parce que ça fait une vraie différence pour faire découvrir le podcast à tous les parents, en devenir ou en plein temps. Dans le prochain épisode, on jase du temps des fêtes en famille et plus particulièrement du respect de ses limites pendant cette période de festivités. À bientôt!